RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Oh, je ne voudrais pas qu'on ait dans de la purée de pois, mais on n'en est pas loin. Bon. Sauf que on ne sait pas exactement si ça sera de la purée de pois, hein, ou de la pomme de terre, ou la purée d'artichaut. Hein. Ouais, oui. Vous n'avez jamais fait de la purée d'artichaut? C'est vachement bon. Bon, ce qu'il y a, c'est que, au final, il n'y a que le cœur à manger. Alors, il y en a qui disent... Oh, il a un cœur d'artichaut. Alors, on ne sait pas si c'est un cœur positif ou négatif. Hein. On n'en sait rien. On n'a jamais dit ce que ça voulait dire, vraiment, cœur d'artichaut. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui aime de trop, qui est trop gentil. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, t'as un cœur d'artichaut, mais moi, je mets de la vinaigrette avec. Bon, c'est pas pareil. Hein. Allez, bon. Alors là, j'ai un poème qui est presque d'époque, mais qui a été quand même fait le dimanche 18 octobre 2009, à 11h05. Ça s'appelle « La dernière version » sur JC. Bon, après, vous saurez qui c'est JC. Hein. Et même comme ça, vous pourrez dire « Agissez !»« Agissez !» Ouais, je sais. Ah ben oui. Il était tellement en retard pour la messe de 9h qu'il brûla avec sa camionnette un feu rouge après avoir fait chauffer l'orange, comme du mauvais encens pressenti. Attention, quand l'orange n'est pas encore tout à fait mûre, vous pouvez passer. Mais si l'orange est très mûre, là, il faut s'arrêter. Hein. Bon. Il ne vit pas l'homme à bicyclette, en robe blanche, cheveux presque blancs et très longs dans le vent, avec cette barbe jugée de plusieurs années. Un peu comme moi, bon, c'est pas ceux qui me connaissent, bon, ils savent très bien que j'ai les cheveux longs, j'ai une grande barbe, j'ai un gros ventre, un nez rouge et des lunettes. Bon. Et là, on serait proche du moment de Noël. Mais là aussi, on n'est pas loin de Noël, là, vous allez voir. Hein. Et l'homme en robe fut projeté avec ses pinces à vélo restées dans sa sacoche, mélangées avec des miracles à prix coûtant et des prières encore vieux vénéles, mais déjà si bien construites pour la circonstance. L'homme à la voiture s'appelait Fiché, fils d'un fabricant de Judas. Hein, il fut choqué par la brutalité du choc, au point de rester cloué devant ce corps allongé, les bras presque en croix. La robe, plus écrue que blanche, restait immaculée malgré la violence de la rencontre. Pas une tache de sang, pas un cri, ni une seule miette de cambouis sur son corps. Un vrai miracle, malgré l'inertie du renversé, encore bouleversé, puisque gardant encore un semblant de souffle de vie. Oh, il croyait s'en sortir, mais la mort arriva juste avant l'ambulance. Bien après le début de la messe, de 9h, puisque l'officiant de permanence avait du retard à cause d'une robe chasuble, mal repassée par la bonne du curé. Sans faire gaffe, les bonnes de curé, ça n'a pas trop bien repassé. Hein. Il faut faire très attention à ça. Le constat se fit juste avant l'autopsie, car l'assurance d'y trouver un alibi valable pour Fichier et pour juste après l'hostie, à la praline, que le curé commençait à offrir à ses fidèles comme récompense pour cette fidélité du rite du dimanche matin, afin de recevoir pour leur âme une parcelle d'ADN de ce Christ en sursis. Mais néanmoins, usurpateur du métier de 1900 ans déjà. Hein eh oui, bon, parce que là, mon texte est de 2009. Hein. Bon, on pourrait dire 2025 ans aujourd'hui. Si je... Eh bien oui, en fait, ça fait 2025 ans. Ben oui. Hein. Quand la nouvelle de sa mort, de la mort de l'inconnu, bientôt reconnu comme le renouveau Jésus-Christ, se répandit parmi la périphérie à gauche de la ville, les médias furent réquisitionnés pour lancer un appel à témoins et pour une recherche d'identité. Ouais. Ce fut un choc, comme dans Paris Match, quand on tenta d'identifier l'inconnu en comparant son ADN avec l'image d'une vieille relique d'un sphère datant d'un temps où un illumineux se prenait pour un certain Jésus-Christ. Ouais, ouais. Heureusement, la légende avait pris du plomb dans l'aile depuis que l'Église avait redonné son tiers à l'État et son linge à laver au pressing d'à côté. l'homme fut identifié comme le Messie, mais sans le missel, mais bien plus grand que l'usurpateur qui se faisait nommer après Jésus-Christ et même parfois avant Jésus-Christ, selon l'âge de ses fans et de ses petits, bien sûr. C'était l'époque où il suffisait de savoir faire du pain pour être aimé par le peuple et en y jetant quelques jeux futiles dans un rond. Les gens d'aujourd'hui n'étant pas dupes, malgré le RMI et la télé, puisqu'ils ont maintenu le foie gras et le calcio, décidèrent que l'homme en robe immaculée, morte sur le bitume en fleurs, est le vrai Jésus-Christ. Ils portèrent son corps d'église en barre de réglisse, en passant par la case de l'oncle Benz, qui ne rit toujours pas de son malheur. Ah oui, l'oncle Benz. Mais, hé hey, dis donc, Anne-Marie, là, t'as compris? Non, t'avais pas compris l'astuce. L'oncle Benz, qui ne rit toujours pas de son malheur. Et le rire de l'oncle Benz, le meilleur qui puisse exister depuis qu'il y a Trump, l'oncle Benz, il n'existe plus. Ouais, bon. Et alors, la foule profita de l'événement pour changer les paroles de « Je vous salue » en reprenant la chanson de Rick Azaray, « Le bain du Saint-Siège ». Hein ? Le Saint-Siège donna son aval avec le Vatican pour virer le pape actuel et pour élire un comité de promotion à ce seul et nouveau martyr contemporain afin de mieux le faire connaître à travers le monde et d'effacer la renommée de l'ancien usurpateur. Bon, oui, celui qui avait 2025 ans, hein, quand même. Bon. Pour couper court avec ses rumeurs et ses paris, les paris mutuels en plus, hein, qui couraient depuis plus de deux millénaires, le comité, dans un souci d'efficacité, annonça le nouveau nom de cette idole. J.C. Jacob Carnaval. Jacob Carnaval. C'est quand même plus joli que Jésus-Christ. Hein ? Un Reine Marie. Ah, tu m'approuves, d'accord, c'est bien. Alors, mêmes initiales, mais aucun rapport avec la rue du Sentier, malgré le doute qu'une prise de pouvoir de l'agent cachère. Ce qui provoqua un mouvement mondial des fêtes, de liesse et de dévotion, même chez les pauvres du quart monde entier. Entre le tiers, le quart et le missel, je ne comprends pas l'ampleur de ce mouvement. L'autre jour, en passant par hasard devant une église, je surpris un curé sur le parvis, en train de dire « On refait toujours l'histoire religieuse selon l'intérêt de remplir à nouveau les églises et les troncs. » Ah, j'avais enfin compris pourquoi je m'étais hâté de ne pas y aller. Voilà. Et peut-être pas cher. Oui, pas cher ou pas cher. Ah, vous avez compris, là. Et alors, dans ce livre qui est Malade politique, aborde un Prévert, le premier tome, il y a toujours une petite maxime de Jacques Prévert. Et alors, lui, dit, Saint-Martin donnait la moitié de son manteau à un pauvre, comme ça, ils ont eu froid tous les deux. Bah ouais, c'est vrai. Et en parlant de ça, vous voyez, hier soir, j'étais faire mes courses, il y avait un mendiant devant le supermarché, j'ai pris mon porte-monnaie, et je dis, allez, viens, va t'acheter une bière. Il m'a dit, non, pas maintenant, pas une bière. Parce que vous savez ce que c'est qu'une bière. Hein. C'est comme si pour la mise en tombeau. Non, il était encore jeune, il pouvait attendre. Hein. Donc il a vraiment été chercher une vraie bière. Voilà. Ça l'a réchauffé un petit peu. Alors je lui demande, il fait, mais tu dors dehors? Il me dit, non, j'ai un logement. Ah, ben, je dis, allez, dépêche-toi de rentrer, te mettre au chaud. Il me dit, oui, mais j'ai pas de chauffage. Ben, tu gardes ton manteau, je lui dis, bon, allons. Il m'a fait pitié, là. Je lui ai donné un peu d'argent, mais j'avais envie de vider mon porte-monnaie, mais comme je n'avais pas encore fait mes courses, je me dis, comment tu vas payer tes courses, hein? Bon, il ne faut pas exagérer. Bon, il y a des limites, quand même. Il y a des limites pas à la pauvreté, mais à la quête. Hein? Bon. On ne peut pas tout donner. À partir du moment où on ne va rien recevoir. Hein? Bon. Bon, je blague, vous savez, vous me connaissez, hein? Je ne suis pas comme ça. Bon. Alors, on va faire un spécial Prévert en musique, en chanson, pratiquement. Alors, Prévert, je vais vous sortir de Prévert, et la fête continue. Enfin, elle n'a pas encore commencé, hein? Bon. On n'est que le 5 décembre, hein. Encore 20 jours. Hein. Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur, habillé en dimanche, et pourtant on est lundi. Chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles si jolies, en titubant devant le zinc, mais guidé par son fils à plomb, par son fil à plomb. Je crois qu'il avait emmené son fils. Non, c'est le fil à plomb du zingueur. Vous savez ce que c'est qu'un fil à plomb. Il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous payeront, puis disparaissent dans le soleil, sans régler les consommations. Disparaissent dans le soleil, tout en continuant sa chanson. Voilà, c'est beau, hein. Ah. Et bien, pour la peine, on va le passer, Prévert. Et alors, ça va être Fou de misère. Ah, c'est lui qui le chante, qui le dit.
Fou de misère. Fou de misère, cavalier d'abattoir, dame des halles, abandonnée, reines et rois du plus haut du pavé. Encore une fois écroulé, naufragé, désarçonné parmi tous les débris d'une trop vieille épave, radeau de la misère, échoué et médusé, jeu d'échecs, bois pourri, damier percé, fou de misère, reines et rois du plus haut du pavé, cavalier d'abattoir, dame des halles abandonnées, reines et rois du plus haut du pavé. Pourtant, malgré le désespoir, ils poursuivaient leur vie et voulaient la gagner. La vie qu'ils poursuivaient, c'était leur vie rêvée. Fou de misère. Mais leur vraie vie de plus en plus désespérée, leur vie de chien fidèle et de chien policier, leur petite meute personnelle, les traquer, les pourchasser. Fou de misère. Encore une fois, la misère qui les affolait, pour les calmer, tranquillement les a fusillés, là, sur les berges de la Seine, dans les ruines des plus vieux pavés. Non, sans leur avoir gracieusement octroyé le plus petit dernier mégot du plus pauvre des condamnés, avec le dernier verre de l'aigre vin de mai. Et le soleil, compatissant à leur souffrance, généreusement leur a donné le coup de grâce. Et dans leur sommeil torride, leurs plus accablants soucis restent en rade. Et là, ce coup de grâce n'est qu'un instant donné. Le soleil, à son heure, doit les abandonner. Et dans les derniers feux d'un tendre crépuscule, la police du fleuve bientôt va les siffler. Fous de misère, arrachés au sommeil, pauvres gibiers trop tôt levés, le cœur battant très mal, comme un mauvais réveil à peine remonté, en courant sur les berges, sans savoir où aller. Ils parleront tout haut, chacun pour soi tout seul. Mais chacun dira la même chose, triste et folle. La jeunesse perdue, ou même jamais eue, mais jamais oubliée. Fou de misère, malgré tout, attaché à la vie, un espoir enfantin leur tiendra compagnie.
Et voilà, fou de misère. Bah oui, c'est un peu ça en ce moment, fou de misère, il y a beaucoup de malheureux. Et là, maintenant qu'il fait froid. Hein. Alors, Victor Hugo. Je crois que, après Prévert, c'est celui que je préfère, moi. Victor Hugo. Bon, il y en a plein d'autres, mais on peut essayer de les classifier. Hein. Victor Hugo pourrait arriver en deuxième position. C'est complètement différent de l'un de l'autre, hein, c'est sûr. Hein. Alors là, il a un poème qu'il a écrit le 12 août 1871, il s'appelle « Les Innocents ». Mais les enfants sont là, le murmure qui sort de ces âmes en fleurs est-il compris du sort ? L'enfant va devant lui gaiement, mais la prière, quand il rit, parle-t-elle à quelqu'un en arrière ? Le frais chuchotement du doux être enfantin attendrit-il l'oreille obscure du destin ? Oh, oh, que d'ombre ! Tous deux chantent, fragiles aux têtes, où flotte la lueur d'eau, on ne sait quelle fête. Et que, donc, un reflet, d'un paradis lointain. Les enfants ont des cœurs faits comme le matin. Ils ont une innocence étonnée et joyeuse, et pas plus que l'oiseau gazouillant sous l'ieuse, pas plus que l'astre éclos sur les noirs horizons. Ils ne sont inquiets de ce que nous faisons, ayant pour toute affaire et pour toute aventure l'épanouissement de la grande nature. Ils ne demandent rien, rien à Dieu, que son soleil. Ils sont contents pourvu d'un beau rayon vermeil, chauffent leurs petits doigts de leurs mains diaphanes, et que le ciel soit bleu, cela suffit à Jeanne. Alors Jeanne, c'est sa petite fille, en fait. Voilà. Il a eu deux petits-enfants. Je crois qu'il y a un garçon et une petite fille. Et Jeanne, donc... la preuve, c'est qu'après, il y a un sous-titre qui s'appelle « L'art d'être grand-père ». Et alors, le 5 juillet 1870, il a écrit « Jeanne fait son entrée ». Jeanne parle. Elle dit des choses qu'elle ignore. Elle envoie la mer qui gronde au bois sonore, à la nuée, aux fleurs, aux nids, au firmament, à l'immense nature, un doux gazouillement. Tout un discours, profond peut-être, qu'elle achève par un sourire où flotte une âme et tremble un rêve, murmure indistinct, vague, obscur, confus, brouillé. Dieu, le bon vieux grand-père, écoute émerveillé. Alors le bon vieux grand-père, ben, c'est lui, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est joli, hein, parce qu'il a fait... Alors je vais vous lire encore. Jeanne songeait. Jeanne songeait sur l'herbe assise, grave et rose. Je m'approchais. Dis-moi ce que tu veux, si tu veux quelque chose, Jeanne, car j'obéis à ces charmants amours. Je les guette et je les cherche à comprendre toujours. Tout ce qui peut passer dans des divines têtes, Jeanne me répondit. Je voudrais voir des bêtes, alors je lui montrai dans l'herbe une fourmi. Vois, mais Jeanne ne fut contente qu'à demi. Non, les bêtes, c'est gros, me dit-elle. Leur rêve, c'est le grand océan les attire à la grève. Les berçant de son chant rauque et les captivant, par l'ombre et par la fuite effrayante du vent. Ils aiment l'épouvante, il leur faut le prodige. Je n'ai pas d'éléphant sous la main, répondis-je. Veux-tu quelque chose d'autre? Oh, Jeanne, on te le doit. Parle. Alors, Jeanne, au ciel levant son petit doigt, ça, dit-elle, c'est l'heure où le soir commence. Je vis à l'horizon surgir la lune immense. C'est pas beau, ça, hein? Elle s'est presque une poétesse, hein, sa petite fille, au final. Hein. Bah ouais, mais avec un grand-père comme ça, je peux vous dire que... Hein. Et alors, vous voyez, en lisant ça, je me ressentais un petit peu dans l'histoire, parce qu'avec mon petit-fils, c'est vrai que je ferais tout pour lui. Sauf que maintenant, c'est devenu un petit con. Voilà, vous voyez. Alors que Jeanne, à mon avis, à son époque, ça se passait pas comme ça. Les enfants de l'époque de Victor Hugo, les ados, ils étaient restés des petites filles ou des petits garçons pour leur grand-papa et leur grande-maman. Hein. Maintenant, moi, mon petit-fils, il me traite comme si j'étais son copain. Hein. Et quand je suis pas d'accord avec lui, il gueule. Il trouve pas ça normal. Ah, le monde, il a drôlement changé en 2 siècles. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Même en moins que ça, d'ailleurs. Bon, bah écoutez, hein, bon. Il paraît que c'est l'évolution humaine. Ouais, bon. Elle n'est pas toujours belle, hein, l'évolution humaine dans ces cas-là. Mais bon, bah, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Bon. Alors, je vous sors mon fameux bouquin, L'aventure d'un pied dans le plat, ventre à terre. Donc, c'est un livre, la poésie que sur la gastronomie. Hein. Alors, j'ai des poèmes qui sont un petit peu longs. Hein. Alors, la vie éphémère d'une frite qui, soi-disant, était belge. Mais c'est pas vrai. Elle n'était pas belge. Hein. Et non. Alors, je vais vous dire pourquoi elle n'était pas belge. Soudain, une petite frite sauta en dehors du paquet de frites de Maëlle que Maëlle allait manger. Et c'est vrai, c'est à partir d'une histoire vraie. On était en train de manger à Jaune Poussin, vous savez, il y a un self qu'on se sert nous-mêmes, de la viande, des frites, des hors d'œuvre, des desserts. Et il prenait des frites et il y a une frite qui tombe par terre. Il n'avait pas fait exprès. Hein. Eh bien, avant les autres, qui préfère, elle, rester bien au chaud. Mais pourquoi quitter ses copines, hein? Miracle, la petite frite parlait le français, alors que l'on pensait plutôt à du flamand, puisque les Belges revendiquaient sa naissance à Namur au XVIIe siècle, exactement. Hein. Que nenni! Alors, vous savez que nenni, ça veut dire non. Mais c'était le nom d'il y a très longtemps. Hein. Avant, on disait pas non, on disait nenni. Elle est née à Paris, juste après la Révolution de 1789. On l'appelait pomme frite du Pont-Neuf. Mais n'oublions pas la fuite de notre petite frite, bien vivace. Elle nous parla de papa. Et comme elle se rendit compte de notre surprise, elle nous expliqua pourquoi. « Je veux rejoindre papa pour connaître mes ancêtres. Et comme elle était très intelligente pour un petit morceau de pomme de terre de terre frite, elle raconta le début de ses origines. « Non, je ne suis pas belge, commença-t-elle. Je suis chilienne. Oh, je viens de l'Amérique du Sud, et plus particulièrement de la cordillère des Andes, où les Incas, il y a 8000 ans, nous appelaient papa. Ah, c'est-à-dire pomme de terre. Cela vous étonne, hein ? Eh bien oui, c'est comme ça. Mais en vérité, les Incas nous cuisinaient qu'à partir du XIIIe siècle. En plus, elle connaissait bien son histoire. Hein. Oh, mais c'est ça, les petites frites, il y en a qui sont très intelligentes. Et comme je suis une petite curieuse, je veux faire un pèlerinage dans ma région d'origine. Et la venue des Espagnols nous amena chez eux en nous nommant Patata. Pas Patatra, hein, Patata. Bon. Puis un certain Parmentier, pharmacien aux armées, trouva notre valeur nutritive en faisant goûter au roi Louis XVI, figurez-vous. Ouais. Depuis, les Belges sont toujours vexés et ils se mirent à en vendre partout. Au point que dans le nord de la France, il y a aussi des baraques à frites partout dans les villages. C'était un peu leur revanche, quoi. Hein, voilà. Hein. C'est beau, hein, l'histoire d'une frite. Hein. Ah ouais. Une frite chilienne, en plus. Hein. Elle était toute jaune, ouais. Frétillante, parce qu'elle venait de sortir de la friture. Hein. C'est normal. Hein. Elle est tombée par terre. Oh, la pauvre. Alors, on l'a ramassée, on l'a emmenée chez nous. Et c'est là qu'elle nous a raconté l'histoire. Alors j'ai dit à mon petit-fils, surtout tu ne la manges pas celle-ci, hein. Il faut la laisser vivre. Bah oui, quand même, pas déconner, non. Une frite qui nous a raconté son histoire, hein, d'où elle est issue, oui. Et après la manger, mais ce sera un crime. Hein. Bah oui, faut pas déconner quand même. Tiens, pour la peine, on va se payer un petit Jacques Prévert. Alors, figurez-vous que lui, il dit « Je mourrai d'un cancer de vos résuants. » Elle est bonne, celle-là.
C'est encore la voix de Boris Vian. Boris, c'est mon ami, c'est mon voisin. Un jour, il est mort, comme on dit. Mais on dit tant de choses. Boris, il est toujours vivant quand je parle de lui. À Ursula, Boris, sa date de naissance, sa date de décès, ce fut langage chiffré. Il connaissait la musique, il savait la mécanique, les mathématiques, toutes les techniques, et les autres avec. On disait de lui qu'il n'en faisait qu'à sa tête. On avait beau dire, il en faisait surtout à son cœur, et son cœur lui en fit voir de toutes les couleurs, son cœur révélateur. Il savait trop vivre, il riait trop vrai, il vivait trop fort, son cœur l'a battu, alors il s'est tu, et il a quitté son amour. Il a quitté ses amis, mais ne leur a pas faussé compagnie. Il savait qu'il mourrait bientôt. Il en parlait souvent. Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale. Ça sera par un soir horrible, clair, chaud, parfumé, sensuel. Je mourrai d'un pourrissement de certaines cellules peu connues. Je mourrai d'une jambe arrachée par un rat géant jailli d'un trou géant. Je mourrai de sans coupure. Le ciel sera tombé sur moi. Ça se brise comme une vitre lourde. Je mourrai d'un éclat de voix crevant mes oreilles. Je mourrai de blessures sourdes, infligées à 2 heures du matin par des tueurs indécis et chauves. Je mourrai sans m'apercevoir que je meurs. Je mourrai enseveli sous les ruines sèches, 2000 mètres de coton écroulé. Je mourrai noyé dans l'huile de vidange, foulé aux pieds par des bêtes indifférentes, et juste après, par des bêtes différentes. Je mourrai nu, ou vêtu de toile rouge, ou cousu dans un sac avec des lames de rasoir. Je mourrai peut-être sans m'en faire, du vernis à ongles aux doigts de pied, et des larmes plein les mains, et des larmes plein les mains. Je mourrai quand on décollera mes paupières sous un soleil enragé, quand on me dira lentement des méchancetés à l'oreille. Je mourrai de voir torturer des enfants et des hommes étonnés et blêmes. Je mourrai rongé vivant par des vers. Je mourrai mains attachées sous une cascade. Je mourrai brûlé dans un incendie triste. Je mourrai un peu, beaucoup, sans passion, mais avec intérêt. Et puis quand tout sera fini, je mourrai.
Alors, on peut dire qu'il avait le choix. Je ne suis pas sûr que nous, on aurait le choix. Hein? Un choix aussi important, non. Hein? En plus, il y a des belles morts hein, dans son texte. Ça vaut des fois le coup hein, d'y passer. Hein? C'est tellement beau. Hein? Mourir de la façon dont il a parlé Prévert en parlant de Boris Vian. Hein? Bon, alors il paraît qu'il ne me reste que 3 minutes pour rester avec vous. Alors, je vais vous commencer un poème. Bon. Jean-Pierre Ménard. Quand s'éveille la colère, attention, tenez-vous à votre chaise. Le jour s'est levé, un jour sombre, sur un lit de feuilles mortes, poisseuses, sur des cadavres, desquels tombent des larmes de vieux chênes. Seul le noyau arbore encore 2 ou 3 feuilles couleur or, que le vent tente d'arracher sans y parvenir. Feuilles jaunes d'hiver résistantes, feuilles vertes, printemps, espoir, là-bas dans la ville, dans la fumée des voitures incendiées, dans les restes de barricades fumantes, on résonne encore le bruit assourdissant des grenades explosives, des nappes légères des gaz lacrymogènes, piquant encore les yeux, des hommes et des femmes choqués par la violence pleurent. Hier, ils étaient dans la rue, dans leurs gilets jaunes, luttant pour leur survie paisible et déterminée. C'étaient des ouvriers, des commerçants, des paysans, des artisans, des retraités. Le menu peuple laborieux, ils veulent la justice. Ils sont des millions à porter cette exigence face aux nantis que l'on gave des fruits de leur travail, alors qu'eux, on les dépouille. Il est temps que justice passe, que le peuple retrouve sourire et espoir, qu'à nouveau la joie règne, que la fraternité ne soit plus en vain, mais un en vain mot. Aujourd'hui, l'espoir demeure, le dialogue reste possible. Et si par malheur le possible devenait impossible, si les tenants du pouvoir s'obstinaient dans le mépris, les lucioles d'or par milliers sur les territoires s'allumeraient, ni la force ni les discours lénifiants ne pourraient arrêter l'esprit du peuple en marche. On brise les corps, on ne brise pas les pensées. L'histoire est un témoin. Demain, plus que jamais, doivent cesser les inégalités. Notre France ne doit plus être défigurée. Pas plus de haine, davantage d'amour. Utopie, non-espoir. Un jour s'éveillera la raison que l'on ne rira plus des poètes, puisse le sang ne pas couler. Voilà. C'est pas beau, ça. Ben, on vient de réveiller les gilets jaunes. Hein. Là-dessus, je vais être obligé de vous quitter, sur les gilets jaunes. Hein. Alors, demain, c'est samedi, enfilez votre gilet jaune et allez manifester. Alors, je crois que non, demain, c'est pas samedi, mais c'est dans la semaine, c'est pareil. Hein. Le mercredi, souvent. Le jeudi, parce que le mercredi, les enfants, ils vont à l'école que le matin, donc ils peuvent aller manifester l'après-midi, par exemple. Emmenez vos gosses, hein, même s'il y a des CRS. Ne vous inquiétez pas, ils n'oseront pas taper sur les gosses. Allez, je vous embrasse. À bientôt.